aimer le plaisir plus que Dieu. Première partie, aimer le plaisir plus que Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un thème d'une très haute importance que j'ai tiré de 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Alors, c'est le texte de base, c'est le texte que nous allons lire, mais seulement le verset 4 qui va vraiment nous intéresser dans ce thème que j'ai intitulé « Aimer le plaisir plus que Dieu ». En fait, je vais vous montrer comment aimer Dieu plus que le plaisir. Mais j'ai voulu garder tel que cela a été écrit dans la Bible, que les hommes aimant le plaisir plus que Dieu. Ok, donc, alors sans plus tarder, je vais lire ma Bible dans 2 Timothée chapitre 3, premier verset au verset 4. Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Cela peut sembler un peu effrayant lorsque nous lisons cette liste des choses qui vont caractériser les gens qui vont faire partie de ce que Paul appelle ici les derniers jours. Ça peut nous effrayer un tout petit peu. Il dresse une sorte de portrait qui contient des caractéristiques. Et ces caractéristiques-là sont vraiment pas agréable. Ok? Et parmi ces caractéristiques se trouve la caractéristique des hommes des derniers jours qui nous intéresse aujourd'hui. Il dit que les gens au dernier jour aimeront le plaisir plus que Dieu. Ou littéralement, ils seront plus amoureux du plaisir qu'amoureux de Dieu. Alors, La meilleure façon de comprendre le Nouveau Testament, c'est de faire une étude minutieuse, justement, et sachant que le Nouveau Testament a été écrit originellement en grec, c'est parfois intéressant de voir la signification de certains mots dans son original pour mieux saisir la profondeur d'une pensée, ok? Et les mots aimant le plaisir sont une traduction du seul mot grec. Il y a un seul mot grec qui a été traduit là par aimant le plaisir, c'est philodonos. Philodonos est composé de deux mots, philéo et edonos. J'espère que je vous perds pas. Je vais sortir de ça rapidement. Philodonos composé de deux mots, philéo et Edonos. Philéo est un mot bien connu quand même qui transmet une idée d'affection et d'amour. Philéo. Et le mot Edonos n'est utilisé que 5 fois dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois qu'il est utilisé, il évoque toujours une image des personnes qui sont complètement préoccupées par le plaisir, qui vivent pour la satisfaction de leur chair et leur propre bonheur personnel. Enfin, leur bonheur personnel. Et ce mot-là, Edonos, c'est même le mot qui a engendré ce qu'on appelle l'hédonisme. L'hédonisme, c'est une espèce de doctrine selon laquelle le plaisir ou le bonheur est le but ultime de la vie. Et qu'il faudrait rechercher à tout prix le plaisir et même en devenir obsédé. Paul a donc utilisé le mot grec philodonos pour dire que la société dans les derniers jours deviendra amoureuse du plaisir. Elle sera préoccupée, obsédée par la recherche du plaisir, par la recherche du confort, du bonheur personnel. Peu importe combien cela leur coûte. Et dans ce contexte, il est crucial que nous réfléchissions en tant que chrétiens à la place qu'occupe le plaisir dans nos vies. N'est-ce pas? Nous devons réfléchir à cela et nous devons nous demander quels sont les plaisirs légitimes qui plaisent à Dieu que nous pouvons rechercher? Quels sont les plaisirs légitimes qui plaisent à Dieu que nous pouvons expérimenter sans être culpabilisés? Quels sont ces plaisirs légitimes qui ne menacent pas notre amour pour Dieu? Et nous allons aussi parler de quels sont ces plaisirs illégitimes ou ces plaisirs impurs ou encore ces plaisirs coupables qui menacent notre amour pour Dieu. Je ne parle pas de tous les hommes, je parle des croyants. Quels sont ces plaisirs illégitimes qui menacent notre amour pour Dieu? Alors, voici une chose que vous devez déjà savoir d'entrée. Une chose que vous devez déjà savoir. Vous devez savoir que Dieu est celui qui a créé le plaisir. Attends, vous... Dieu est celui qui a créé le plaisir. Parce que je vous vois trop venir. Vous êtes comme, ok, yeah, le plaisir est créé par le diable. Non. Dieu est celui qui a créé le plaisir. Mon but dans ce podcast n'est pas de vous interdire toutes sortes de plaisirs. De toute façon, je pense que c'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas vivre sans ressentir le plaisir. Déjà, en écoutant ce podcast, certainement, vous ne ressentez qu'un plaisir. Donc, anyway. Mon but dans ce podcast sera d'analyser la place du plaisir dans notre vie chrétienne et de comment ne pas aimer le plaisir plus que Dieu. Ok? Alors, dans notre culture actuelle, dans notre société actuelle, la recherche du plaisir est devenue l'une des plus grandes priorités. N'est-ce pas? La recherche du plaisir est devenue l'une de nos plus grandes priorités. Nous passons une grande partie de notre temps à essayer de nous divertir. Netflix par ici, voyage par là. On veut se divertir au maximum. Plusieurs personnes ne vivent que pour la fin de semaine. Plusieurs travaillent avec pour seul but de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir aller en voyage et se distraire à fond. Et dans le climat social dans lequel nous vivons, on peut constater que plusieurs chrétiens qui sont assez conservateurs réagissent à cette culture. Et ils pensent qu'il faudrait s'abstenir de toute espèce de divertissement. Il faudrait s'abstenir de toute espèce de loisir qu'ils traitent de charnel et d'émotionnellement corrupteur. Ils disent que c'est charnel, que c'est émotionnellement corrupteur, que c'est émotionnellement gratifiant, c'est pas de Dieu. Ils disent que les chrétiens devraient se concentrer uniquement sur les questions d'ordre spirituel. Yeah. Ils disent que les chrétiens devraient se concentrer uniquement sur les questions d'ordre spirituel et vivre une vie minimaliste. Une vie loin du luxe, une vie loin de tout plaisir qui puisse venir de la vie matérielle. Ils disent que nous devrions nous retirer de cette culture avant qu'elle ne nous contamine. Sortez du milieu d'eux. Sauvez-vous de la génération pécheresse. Alors, frère, en posant les bases de mon message, de cette exhortation, j'aimerais déjà nous faire comprendre une chose. Dieu est le créateur du plaisir. Dieu est le créateur du plaisir. Le plaisir a sa place dans la vie. Le plaisir est une bonne chose qui a été créée par Dieu. Ouais. Qu'on ne nous trompe pas, le plaisir est une bonne chose qui a été créée par Dieu. Les loisirs, même les divertissements, sont un don de Dieu qui nous procure beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Ok, on peut pas les mettre de côté en bloc. C'est également pour beaucoup de gens une grande source de repos, n'est-ce pas? Surtout les gens qui sont dépassés par certains fardeaux de la vie et qu'on sort. Voilà, ces divertissements leur permettent de souffler un peu. Et si vous vous refusez ces plaisirs qui sont totalement légitime que Dieu vous accorde dans la vie, croyez-moi, vous ferez sûrement partie à un moment donné, de la vague des chrétiens qui sont religieux et en même temps qui sont hyper dépressifs. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Ok? C'est pas ce que Dieu veut pour vous. Mais alors, puisque le plaisir est une bonne chose qui a été établie par Dieu, où se trouve donc le problème? Où se trouve le problème? Où se trouve l'élément qui nous cause un problème en tant que chrétien? Dans ce podcast, j'aimerais examiner avec vous c'est quoi le véritable plaisir et à quel moment nous tombons dans le plaisir coupable. Et je vais aussi vous montrer comment s'en sortir. Dans ce premier épisode, je pense que je vais juste uniquement parler des plaisirs légitimes de la première catégorie. La deuxième catégorie, je vais en parler dans la deuxième partie pour ne pas tirer le podcast en longueur, pour ne pas que ça dure une éternité. Alors, premier point, parlons des plaisirs qui sont légitimes. Je ne veux pas passer beaucoup de temps ici parce que c'est plus ou moins des choses que vous connaissez déjà, mais j'ai voulu l'aborder pour apporter des nuances sur certaines choses importantes. Les plaisirs légitimes, c'est le genre de plaisir qu'on peut retrouver dans les choses simples de la vie, n'est-ce pas? Les choses qui ne nous laissent aucun sentiment de culpabilité. D'accord? Et la particularité de ces plaisirs, c'est qu'ils ne nous laissent aucun sentiment de regret. Ok, et lorsque nous les expérimentons, nous en sortons totalement ravis. Ok, nous en sortons ravis. Et je pense que c'est important de noter ça. Ce type de plaisir peut provenir de beaucoup de choses. Des activités comme contempler un coucher de soleil, comme prendre un bon petit déjeuner, visiter un ami, jouer à la PlayStation, prendre un Starbucks, lire un bon livre, je sais pas, passer du temps avec son épouse, jouer avec les enfants, regarder un merveilleux film sur Netflix. Great, that's great. Toutes ces choses procurent un plaisir qui ne nous laisse aucun sentiment de culpabilité après. C'est vraiment pas mal. Ce sont des plaisirs qui sont légitimes et ça fait partie de la vie. Et Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre ces choses. Et l'autre particularité de ce type de plaisir, c'est que ce type de plaisir légitime dépend souvent de chacun de nous. Dépend de nos préférences, dépend de nos backgrounds, dépend de nos goûts. Ok? Donc, ce sont des choses qui nous font plaisir personnellement et cela varie vraiment d'un individu à l'autre. Alors, mais il y a une nuance importante que j'aimerais apporter. Même avec ce type de plaisir, il y a un problème qui peut se glisser, un problème qui peut surgir. Ce type de plaisir peut devenir un problème lorsque la dose est mal gérée. Lorsque la dose est mal gérée, lorsque c'est rendu extrême, lorsque son utilisation devient immodérée. Je ne veux pas rester longtemps sur ça, mais vous devez savoir que ces plaisirs, quoi qu'étant des plaisirs légitimes, deviennent corrompus lorsqu'ils prennent la place de Dieu dans notre vie. Lorsqu'ils prennent la place de Dieu dans notre vie. Lorsque nous devenons obsédés de la télévision. Lorsque nous devenons obsédés des jeux vidéo. Lorsque nous devenons un obsédé des voyages. Lorsque nous devenons un obsédé de la bouffe. Lorsque nous devenons un obsédé du luxe. Lorsque nous devenons un obsédé de l'argent. Lorsque nous devenons un obsédé des divertissements. Lorsque nous commençons à grignoter tout le temps et à s'empiffrer des Big Mac, là, il y a un problème. C'est là que ça devient un problème. Et c'est là que ça devient une sorte d'idole dans notre cœur. Frère, Dieu veut rester le seul dans notre cœur. Il veut que notre cœur soit rempli que de lui. Il veut être notre recours ultime. À chaque fois qu'une chose est mal dosée dans ta vie, tu pèches contre Dieu. Et c'est ça, c'est important de le savoir. Parce que si, parce que dans la Bible, nous avons des péchés comme l'excès de table. Attends, en quoi le fait que je mange beaucoup fait que je pêche? De toute façon, c'est mon corps. Pourquoi si je mange à l'excès, je pêche? Le problème, c'est pas que tu... Le problème n'est pas de manger à l'excès. Le problème, c'est l'excès. Oh, yeah. Le problème n'est pas de manger à l'excès. Le problème n'est pas d'aimer à l'excès. Le problème n'est pas de suivre la télé à l'excès. Le problème n'est pas de jouer à la PlayStation à l'excès. Le problème se trouve dans l'excès. L'excès de toute chose qui n'est pas Dieu est un problème pour Dieu. L'excès de toute chose dans ta vie qui n'est pas Dieu est un problème pour Dieu. Dieu veut que tu excèdes que de lui. Yes. Dieu veut que toutes les autres choses dans ta vie soient dosées de manière appropriée. Et que si tu devras excéder dans quelque chose, que tu excèdes dans les choses qui te mènent à Dieu, dans les choses qui sont en rapport avec Dieu. Que tu aimes Dieu en excès. Yes. Si tu veux excéder dans quelque chose, excède dans ton amour pour Dieu. Donc, on voit qu'ici, le problème ici, ce n'est donc pas ses plaisirs en eux-mêmes. Le problème ici, c'est notre attitude à leurs égards. Lorsque nous commençons à excéder dans l'utilisation, c'est là que nous péchons. Deuxième type de plaisir, les plaisirs coupables ou les plaisirs illégitimes. C'est ici que je vais insister le plus car c'est vraiment le plus problématique. Alors, quels sont ces plaisirs coupables? Quels sont ces plaisirs illégitimes? Ce type de plaisir de la vie qui nous souille et que Dieu ne veut pas pour nous. Ce type de plaisir, après leur avoir cédé, nous nous sentons sales, coupables ou simplement vides. Ça nous donne du plaisir, mais cela ne nous donne pas... Cela ne nous procure pas la joie après le plaisir. Et généralement, ils ne sont jamais vécus sans laisser en nous un sentiment d'inconfort ou de malaise. Ils laissent toujours une tache derrière eux. Alors, comment identifier ce type de plaisir nocif? Comment les identifier? C'est simple. Ce type de plaisir est manifestement condamné par Dieu. Dieu condamne ce type de plaisir. Ce type de plaisir est manifestement condamné par Dieu. Les types de plaisirs comme convoiter une femme, faire le voyeurisme, se donner du plaisir dans la masturbation, abuser de l'alcool et des drogues, trouver le plaisir dans la pornographie, toutes ces choses et bien d'autres encore qui sont semblables. Vous devez être d'accord. Je ne veux pas entrer sur chaque type de plaisir, mais vous devez savoir que Dieu les interdit explicitement. Ce que je viens de citer et même d'autres dans un autre podcast, je pourrais rentrer en profondeur sur ça. Dieu les interdit explicitement. Et ce type de plaisir-là, pour la plupart des gens qui le pratiquent, les cachent aux autres. Ce sont des choses que nous faisons en cachette afin que personne ne nous voie, n'est-ce pas? Et après avoir fait ça, vous vous sentez honteux de l'avoir fait. Vous devez savoir une chose, c'est que le pouvoir de ces plaisirs-là repose sur le fait qu'ils sont secrets. Je viens déjà de vous donner une grande clé pour les vaincre si vous retrouvez coincé dans ça. Leur pouvoir se trouve dans le fait qu'ils sont secrets. Et pour arriver à en être libéré, vous devez commencer par les admettre, ensuite les avouer à quelqu'un d'autre. Les admettre, ensuite les avouer. Les avouer à trois types de personnes. Les avouer à soi-même, c'est-à-dire reconnaître cela. Les avouer à Dieu. Se repentir devant Dieu. Et généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils s'arrêtent ici. Ils reconnaissent qu'ils ont un problème. Ils avouent à Dieu dans la prière. Et ils s'arrêtent là. Non, ça ne devrait pas s'arrêter ici. Vous devez faire la troisième de choses. Vous devez avouer à la troisième personne. Parce que la troisième, le troisième type de personne à qui avouer, vous devez avouer cela à quelqu'un d'autre qui va vous suivre dans votre progression de recovery, de, comment je peux dire, une conversion de guérison, si je peux l'appeler ainsi. Vous devez avoir quelqu'un qui puisse vous poser certaines questions, qui puisse vous demander où tu en es, est-ce que ça va, est-ce que tu sens la... quelqu'un qui va vous suivre, quelqu'un qui va mesurer votre progression dans le processus de votre guérison. Et si vous faites ces trois choses dans l'ordre, dans cet ordre que je viens de citer, les avouer soi-même à Dieu et puis à quelqu'un d'autre, alors vous venez en fait de vous mettre sur la voie de la victoire. Ok? Alors, avant d'aller plus loin, il y a une chose que j'ai voulu que vous sachiez sur ce genre de plaisir. Et même sur le péché en général, mais spécifiquement sur ce genre de plaisir coupable. C'est que ces plaisirs nous promettent toujours des grandes choses, mais nous déçoivent aussi toujours parce qu'ils n'accomplissent pas leurs promesses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Et même, de toute façon, vous devez savoir que les promesses du péché sont toujours trompeuses. Le diable est un menteur. Ça veut dire qu'il n'accomplit jamais ce qu'il promet. Et Dieu, Jésus, la vérité, il accomplit toujours ce qu'il promet. La particularité avec le péché, c'est qu'il nous déçoit. Il nous donne une fausse espérance de joie. Et lorsque nous le consommons, nous nous rendons compte que nous sommes encore plus vides qu'avant. Promesse trompeuse. C'est pourquoi juste après avoir commis cet acte, vous sentez vide, vous sentez honteux. Alors, la raison pour laquelle ces plaisirs ne peuvent pas vous donner ce qu'ils promettent, c'est parce qu'ils promettent ce que Dieu seul veut vous donner. Yes. Ils promettent ce que Dieu seul veut vous donner. Ce que Dieu seul veut vous donner, c'est un plaisir qui procure par la suite une joie véritable et durable. C'est un plaisir qui donne un sens à votre vie. Alors, la question est celle-ci. Quelles sont les choses dans notre vie dans lesquelles nous espérons trouver du plaisir, mais qui nous laissent toujours vides et déçus? Quelles sont ces choses? Alors, sans plus tarder, cela me conduit à aborder le point sur comment se libérer de ces plaisirs coupables. J'aimerais aborder ceci de deux manières. Premièrement, je vais utiliser une approche scientifique et deuxièmement, je vais utiliser une approche spirituelle. Dans ce podcast, je vais m'arrêter à l'approche scientifique et dans la partie 2, je vais aborder l'approche spirituelle et je vais conclure. Mais vous allez vous rendre compte que ces deux approches vont aboutir aux mêmes choses, mais avec certaines nuances. Et c'est très intéressant. Suivez bien ce que je vais dire. Alors, commençons avec l'approche scientifique. Je vais expliquer ici ce qu'on appelle le mécanisme du plaisir. J'aimerais vraiment que vous me suiviez. Si il y a des choses qui vous échappent, n'hésitez pas de revenir en arrière pour réécouter. Ok? Je vais expliquer ce qu'on appelle le mécanisme du plaisir. C'est quoi le mécanisme du plaisir? Alors, le mécanisme du plaisir, ça fonctionne comme ceci. Lorsque vous voyez un chocolat, ou mettons une pizza, lorsque vous voyez une pizza bien chaude là, une pizza que vous kiffez, que vous surkiffez, que vous avez déjà mangé et vous savez que c'est très bon. Lorsque vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe en vous? Il se passe que lorsque vous voyez cette pizza-là que vous aimez, que vous kiffez, que vous surkiffez, il se passe que cela provoque en vous ce qu'on appelle de l'envie. Ok? Vous avez envie de manger. Cela provoque en vous de l'envie. Et ensuite, cette envie progresse et l'envie devient une sorte de besoin irrésistible de manger. Au début, c'était qu'une envie. Oh, j'ai envie de le manger. Et puis, ça devient irrésistible. Non, il faut que je mange. Je dois le manger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cerveau, en fait? Il s'est passé la première fois que vous avez mangé cette pizza, il y a une région de votre cerveau qui avait été stimulée, qui avait été activée. Cette région-là, c'est la région qu'on appelle le système de récompense. Suivez-moi, j'ai vraiment fait de mon mieux pour simplifier au maximum cette explication. Non, l'explication que vous entendez, c'est probablement la plus simplifiée que possible. Donc, je vous en supplie, suivez-moi. Donc, je disais que lorsque vous avez mangé cette pizza-là pour la première fois, il y a une région qui a été activée dans votre cerveau et cette région s'appelle le système de récompense. Et le système de récompense dans notre cerveau, c'est un système qui a pour objectif de nous pousser à faire certaines activités que lui, le système, avait jugées agréables. Donc, lorsque nous avons mangé la pizza et que nous avons trouvé que la pizza était très bonne, le système a mémorisé l'information. Et lorsque vous voyez une pizza, lorsque vous voyez la même pizza quelques jours après, quelques semaines après, le système de récompense active. OK? Le système de récompense active parce que la première expérience était bonne. Et le système vous rappelle donc que vous devez prendre ça parce que la première expérience était bonne. Et c'est ce système qui est à la base même de notre survie. Parce que c'est grâce à lui que nous mangeons tous les jours, que nous faisons toutes les petites choses quotidiennes qui permettent le bon fonctionnement de notre organisme. OK? Parce que c'est le système qui mémorise, le système mémorise la chose qu'il a stimulée, mémorise la pizza qu'il avait stimulée et nous pousse à répéter l'action qui nous a procuré du plaisir dans le passé. Et c'est ainsi que nous mangeons tous les jours, que nous faisons tous les jours les choses qui nous procurent une certaine dose de plaisir. Parce que c'est le système de récompense qui nous rappelle que nous avons besoin de ces choses-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est ce système qui s'active devant une pizza que tu avais déjà mangée l'autre fois et qui était super bonne. Et lorsque tu vois ça encore une fois, ton système s'active et il devient excité. Et il te communique le message de le consommer. Il te dit, consomme cette pizza. Consomme-la. OK? Et lorsque tu vas la consommer, lui, le système sera satisfait. Et il va te faire comprendre qu'il a été satisfait en libérant dans ton cerveau une substance qu'on appelle de la dopamine. Donc, lorsque tu consommes, lui maintenant il te donne le message de sa satisfaction. Il te dit OK, j'ai été satisfait. Et toi, comment tu sais que ton système a été satisfait? C'est lorsque tu ressens de la dopamine. Le système libère de la dopamine. La dopamine qui est ce qu'on appelle le messager chimique du plaisir. C'est-à-dire c'est la dopamine qui nous apporte le message du plaisir. C'est la dopamine qui nous dit si on a ressenti du plaisir ou pas. Si aucune dopamine n'est libérée pour quelque chose, ton cerveau ne voudra pas répéter cette chose-là, ne voudra pas répéter l'expérience. Et si beaucoup de dopamine se libère à chaque fois que tu fais quelque chose, ton système de récompense dans ton cerveau te redemandera cette chose-là encore et encore. Et c'est comme ça que les gens ne se passent plus d'une certaine activité. Et finalement, on appelle ça addiction ou dépendance. Ils n'arrivent plus à se passer d'une certaine activité qui libère beaucoup de dopamine. Et on commence à les appeler addict, accro, dépendant. Alors, tu manges un énorme Big Mac, tu y prends du plaisir, puis ton cerveau mémorise. La prochaine fois, le système de récompense va directement s'activer lorsque tu vois un Big Mac, lorsque tu verras un Big Mac devant toi. Tu suis un film X, tu libères énormément de dopamine, le cerveau mémorise le plaisir et te le redemande encore et encore. Et c'est là que le cycle se déclenche. C'est là que le cycle se déclenche. Maintenant, à la vue de ce cycle, lorsque nous voyons comment ce cycle s'est installé, lorsque nous voyons comment ce cycle s'est installé, comment briser ce cycle? Comment briser ce cycle pour reprendre le contrôle de son cerveau? On est dans l'approche scientifique. Comment briser ce cycle pour reprendre le fonctionnement normal de notre cerveau? Alors, voici déjà pourquoi vous n'arrivez pas à briser ce cycle si vous êtes dans ce cycle. Ou voici pourquoi les gens n'arrivent pas à briser ce cycle. Parce que vous n'arriverez jamais à briser ce cycle tout simplement. Ou peut-être pas jamais, mais vous n'arriverez presque pas à briser ce cycle tout simplement. C'est très dur. En tout cas, ce n'est pas scientifiquement, ce n'est pas la meilleure manière de briser un cycle. Vous n'arriverez pas à briser ce cycle tout simplement parce que briser ce cycle, ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous ne devez pas essayer de briser ce cycle. Ok. Tu vois le temps de le développer. Vous ne devez pas essayer de briser ce cycle. Non, non. La solution n'a jamais été d'essayer de briser ce cycle. La seule solution efficace et durable, c'est non pas d'essayer de briser le cycle, mais de le remplacer par un autre cycle. De le remplacer par un autre cycle. Alors, comment ça se passe? Le cerveau te redemande sans cesse le plaisir qu'il a expérimenté, mais le cerveau n'est pas au courant de la source de ce plaisir. Yeah, that's the fun part. Le cerveau te redemande sans cesse le plaisir qu'il a expérimenté, mais le cerveau n'est pas au courant de la source de ce plaisir. Alors, tout ce qui intéresse à ton cerveau, c'est l'intensité du plaisir. La source du plaisir n'est pas son problème. Alors, voici ce qui se passe. Il se passe que lorsque tu modifies la source de ton plaisir, le cerveau n'a aucun problème pourvu que le plaisir soit autant intense ou même plus intense que la première source. Je sais pas si vous comprenez ça. C'est vraiment ici que se trouve la clé scientifiquement. La seule solution efficace et durable, c'est de trouver une autre source de plaisir. Une autre source de plaisir qui va égaler ou dépasser le plaisir coupable. Et quand on revient au texte de Paul, on remarque qu'il dresse un tableau avec deux colonnes. Il dit d'un côté l'amour du plaisir et de l'autre côté l'amour de Dieu. Il dit que les hommes aimeront le plaisir plus qu'ils n'aiment Dieu. C'est-à-dire que l'amour pour le plaisir sera plus intense que l'amour pour Dieu. Donc, en d'autres termes, la seule chose qui peut vraiment détrôner l'intensité du plaisir, l'intensité de l'amour pour le plaisir, c'est l'intensité de ton amour pour Dieu. Oh, yo, I just said it. Oh my goodness. Tu ne devrais pas essayer de briser ce cycle tout simplement. Tu devrais te rapprocher tellement de Dieu. Tu devrais te rapprocher tellement de Dieu que ton amour pour Dieu, que ton amour pour Dieu devienne tellement intense que cet amour remplace toute espèce de cycle de plaisir dans ton cerveau, dans ta vie. Alors, dans la partie 2 de ce podcast, je vais te montrer comment ça fonctionne. Pour cet épisode, je m'arrête ici. Alors, on se retrouve dans la partie 2 pour la suite. Que Dieu te bénisse.